France Musique. Les grands entretiens de Pablo Iras Casado.
Bonsoir, je suis Pablo Iras Casado. Je suis chef d'orchestre. Je suis né à Granada, au sud de l'Espagne, en Andalousie, en 1977.
Vous nous racontiez ces premiers souvenirs de musique, Pablo Iras Casado, qui sont arrivés via l'école et un petit peu le hasard. Vous nous dites qu'il y avait dans l'école une chapelle aussi. C'était une école catholique ou...
C'était quelque chose de mixte. C'est vrai que c'était fondé par un prêtre.
Hein.
Mais non, c'était très relax. Parfois, il avait une messe, mais il n'avait pas une éducation très stricte. Et les professeurs n'étaient pas de religieux, c'était des gens normaux. Et on ne nous forçait pas beaucoup à suivre. On ne faisait pas la prête, tout ce genre de choses. Mais on nous a éduqués dans le catholicisme, mais d'une façon très détendue. Et finalement, la religion catholique, ça restait plus une question culturelle plus que vraiment. De plus en plus, je vois ça, en tout cas, en Espagne, un peu partout. Et encore, on célèbre les fêtes. Les fêtes religieuses sont le fait que, comme la Semaine Sainte, c'est très important et très fort partout en Espagne, particulièrement au sud. Mais c'est plutôt une grande expression artistique et populaire. Pour cet engendre religieux aussi, mais je crois que, voilà, à cette époque-là, c'était un peu pareil. On allait à l'église, mais parfois avec mes parents, mais pas nécessairement tous les dimanches. Et après, peu à peu, on avait d'autres choses à faire.
Alors on sent que le piano, c'était pas forcément un instrument avec lequel vous avez eu une familiarité évidente. Faut dire que c'est une grosse bête, en plus un grand pléiel, c'était impressionnant pour le petit garçon que vous étiez. La voix, par contre, ça vous était très naturel, de chanter.
J'aimais chanter. C'est le fait de chanter, le fait pur et physique, et aussi émotionnel de produire la voix, pour moi c'était déjà, c'est incroyable, c'est une joie énorme. Je me souviens, j'ai fait quand même on dit en français, la communion. Et les professeurs m'ont demandé si je pourrais faire un solo, parce qu'il avait aussi la messe, la cérémonie de la communion. On a chanté quelques chansons, mais ils m'ont demandé de faire le soliste. Ouais. Déjà chanter.
Petit garçon sopraniste.
Exactement, exactement. Et là, c'était juste ça. Mais plus tard, je m'en souviens très bien, très vivement, on visitait un frère de mon père, qui habite à Granada aussi. Il avait un local avec les fenêtres ouvertes, dedans il avait un chœur qui répétait. Et j'étais attiré par ça. On s'est approché aux fenêtres pour voir ce qui s'est passé là-dedans. Et on a rentré, et on a demandé, et j'étais avec ma mère. Et finalement, je suis rentré chanter dans le chœur. C'était un chœur mixte, avec des gens adultes, des enfants de tous les âges. Moi, à l'époque, j'étais le plus jeune. Mais il y avait d'autres gens de ma génération, plus ou moins, un peu plus âgés que moi. Et j'ai fait un groupe d'amis. Et là, on chantait un répertoire très ouvert et très On chantait des arrangements de musique populaire, on chantait, je sais pas, des musiques plus légères. Et on chantait aussi des musiques folkloriques, des arrangements, des musiques andalous. Mais entre le répertoire si éclectique, il y avait de la musique de Tomás Luis de Victoria, il y avait de la musique du 16e siècle. Et même à cette époque-là, je ne savais pas exactement, je n'étais pas informé de des périodes historiques ou des styles ou de qui était Tomás Luis de Victoria ou Orlando Villasso. Mais c'est vrai que en découvrant cette musique, j'ai vu, j'ai ressenti et j'ai écouté quelque chose qui était fascinant, fascinant. Et notamment, il y avait deux réponses de Ténèbres de Victoria, Anima Mern et Tenebre Facte Sunt. Et après, il y avait aussi une petite chanson d'Orlando Villasso, magnifique, et ça m'a complètement fasciné. Avec les autres jeunes qui avaient dans le chœur, on commençait à faire de petites répétitions entre nous, à chanter cette musique. Et ils avaient quelques enregistrements déjà, ils m'ont passé des disques pour écouter cette musique. Et peu à peu, j'ai commencé à écouter. Et après, j'ai grandi le répertoire un peu. Mais surtout, la musique ancienne m'a fasciné depuis le début. Et c'est grâce au chant et au fait de faire de la musique en communauté. Et
c'est la dynamique du collectif.
La dynamique du collectif, ouais. C'est fascinant, c'est magnifique. Et aussi le répertoire qu'on peut faire, qui m'a amené à la direction.
Et donc d'appartenir à un grand ensemble, et le petit garçon que vous êtes qui est en train de se construire, qui a 10, 12 ans, ça lui a fait une colonne vertébrale particulière, ça lui a donné confiance aussi.
Absolument, absolument. Parce que, en fait, j'étais plutôt timide. Mais après, dans le monde du chœur, et en créant un collectif humain très fort, où pas seulement la répétition, mais après la répétition, on allait prendre un verre, ou on faisait une petite tournée, on chantait dans une cérémonie religieuse, un mariage, ou un concert de, je sais pas. Alors la vie qu'on crée là, et les rapports sont très forts, et on crée une communauté tellement diverse, où tout le monde apprécie ce que l'autre fait, où tout le monde est nécessaire. Et tout le monde fait ses possibilités. Et finalement, c'est ça l'orchestre aussi. Même les grands orchestres, c'est un collectif aussi. On pense que le niveau moyen est plus ou moins le même. Non, il y a beaucoup de différences. Différences d'âge, différences d'éducation, différences de génération, d'attitude. Voilà, et physiquement aussi, c'est pas la même chose un jeune musicien de rang que quelqu'un qui est déjà
Et
un
puis il y a
peu.
plein de nationalités, hein.
Il y a plein de nationalités, il y a plein de personnalités. Et je suis sûr, je suis convaincu, pour moi, c'était la meilleure école humaine, mais aussi artistique et musicale. Et en fait, j'ai passé au moins 10 ans, 12 ans en dirigeant des chœurs, plutôt chœur amateur. Pas professionnel, amateur. Et quand j'ai commencé à diriger des groupes professionnels, finalement la différence n'était pas si grande.
Les grands entretiens de Pablo Heras Casado, France Musique.
On entend Pablo Heras Casado que voilà, il y a le chant, il y a le piano, je crois qu'il y a même eu peut-être un peu de violon, vous avez fait un peu
Oui,
de violon
j'ai
à
fait
un
violon.
moment aussi. Mais on a le sentiment que plus que ces instruments-là, c'est la musique. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a des gens pour qui l'instrument est le vecteur principal et tombe amoureux d'un instrument, et puis il y en a d'autres pour qui en fait c'est la musique, que les frontières de l'instrument n'existent pas.
Mais c'est tout à fait ça, et c'est ceci la raison pour laquelle je fais ce que je fais. Je dirige. Je crois qu'il y a même des chefs d'orchestre qui sont aussi très motivés pour la direction comme acte, comme geste. Et j'ose dire aussi que, et parfois, c'est pas tellement la musique, mais le être chef et le fait de gérer et d'être sur le podium qui motive. Parfois, et je trouve ça c'est une erreur énorme. Et les musiciens ressentent toujours quand quelqu'un il est là pour la musique, que pour la musique, mais pas pour être le chef ou pour avoir un peu le pouvoir ou la. Et ça pour moi ça reste l'essence finalement et l'énergie qui me ressource tout le temps c'est la musique. On fait avec le piano aussi, j'avais cette difficulté mais en même temps j'avais une facilité, j'avais pas beaucoup de problèmes mais évidemment, il fait pour un instrument comme le piano ou le violon, il faut beaucoup de exercice. Beaucoup de gymnase. Et au bout d'un moment, ça m'a frustré beaucoup parce que je voyais déjà la musique, ce que je voulais faire avec ça.
Ah, vous entendiez ce que vous vouliez.
Exactement. Ça m'arrivait pas dans les doigts.
Y a une
Il y a une
frustration.
frustration parce que les doigts m'accompagnaient pas encore. Et par contre, avec le chant, je pouvais déjà phraser et faire ce que en lisant les partitions, je lisais les partitions comme quelqu'un qui les livre aussi. J'allais au lit le soir avec partition, partition, partition. Et j'étais habitué à lire les partitions, pas avec le piano, mais je chantais. Je le chantais intérieurement.
C'était vos histoires.
Exactement, je prenais les préludes des fugues de Bach, par exemple, et j'avais plaisir à lire toutes ces fugues, les lignes, la polyphonie, et après les motettes, et lire aussi la musique chorale, les partitions de chœur, comme les gens savent. Tu n'as pas seulement ta partie, mais tu as la partition complète avec toutes les voix. Et apprendre à lire à travers toutes les lignes, pas seulement la tienne, mais tout, ça c'est fascinant. Et ça
C'est une bonne école.
c'est une très bonne école. Mais finalement, c'est aussi la musique, et le fait de vouloir m'occuper de l'essence musicale qui m'a fait un peu quitter peu à peu l'instrument, dans ce cas le piano. Et le violon, c'était tout le contraire. Le violon, c'était à partir de que je commençais à diriger. J'étais très éclectique dans la façon dont je faisais mes programmes d'études. Et j'étais complètement anarchique et anti-académique. Et je quittais le conservatoire, quittais l'université après. Mais j'étais persuadé, ou j'avais l'instinct ou finalement. Donc il faut que je dédie du temps à ça. Je m'imposais moi-même mes devoirs, mes lignes de travail. Et je me suis dit, ce serait très bien si je commence à étudier un instrument de cordes pour connaître le langage, pour connaître la techniquement comment ça marche. J'ai eu le courage de commencer le violon à 17 ans. Et là, il fallait beaucoup de patience et beaucoup de discipline. Et j'ai passé 3 ans, presque 4 ans avec le violon. Et finalement, ça m'a beaucoup aidé. Oui. Beaucoup, beaucoup, beaucoup aidé.
Là, c'est encore plus difficile qu'avec le piano d'entendre tout de suite ce qu'on veut entendre.
Exactement.
Toute votre adolescence, Pablo Heras Casado, alors vous avez eu des leçons donc un peu particulières pour le piano. Vous n'êtes pas rentré à un moment dans une école de musique ou un conservatoire
Oui, oui, oui. Non, je commençais avec des cours privés à l'école. Mais au bout d'un moment, j'ai commencé à aller au conservatoire, à faire les examens, mais comme élève
libre,
voilà. Et après, je suis rentré dans le conservatoire. J'avais, je sais pas, 10 ans peut-être. J'ai fait le cours au conservatoire, je suis resté, je crois, jusqu'à 18 ans, 19 ans. J'ai terminé le piano finalement. À partir de là, j'ai quitté.
Vous avez...
J'avais déjà au moins avoir un titre officiel de professeur de piano, ça je l'ai. Et après, évidemment, le piano, ça m'a beaucoup aidé. Et j'utilisais beaucoup quand j'ai travaillé avec les chanteurs, quand j'ai travaillé avec les chœurs, je répétais avec eux et c'était toujours, pour les accompagner, c'était toujours très, très utile. Mais oui, au conservatoire, finalement, c'était, à l'époque, c'est vrai aussi que le système était beaucoup plus conservateur et c'était pas du tout créatif. Maintenant, c'est différent. Maintenant, je vois le conservatoire à Granada ou les conservatoires en Andalousie, c'est beaucoup plus dynamique et moderne, le programme d'enseignement. Mais à l'époque, c'était un peu ancien régime, très lourd et la liste des compositeurs, d'influences, des styles, c'était très courte. Et j'ai découvert des compositeurs comme Alban Berg, ou Webern, ou même Pierre Boulez, ou presque Bartok, dehors du conservatoire, pas dans le conservatoire. Et ça, on ne peut pas l'imaginer. Et ça m'est arrivé un peu la même chose à l'université. Et je commençais à étudier histoire de l'art. À bout d'un moment aussi, quand j'ai fondé mes ensembles, évidemment, j'avais besoin de temps pour m'investir dans l'ensemble, pas pour répéter seulement, mais pour tout faire, pour faire la distribution, pour avoir des concerts, pour gérer les répétitions, les transports, faire tout. Alors, à l'université aussi, la deuxième année, je voyais que bon, je passais les examens, mais sans aller à l'université, à la classe. Et j'étais toujours très pragmatique. Ça fait aucun sens de rester à l'université si je viens pas au cours et je suis pas. Et pour apprendre de l'art, j'étais toujours très, très active et j'ai encore lu beaucoup et apprends beaucoup. Alors.
Et vous avez fait aussi, je crois, des classes d'art dramatique. Vous avez vraiment essayé d'épouser tous les contours de la création. La peinture, le théâtre,
la musique. La musique, même la danse. Parce qu'à l'époque, aussi avec un ensemble de musique contemporaine que je fondais à Granada, nous est arrivé une occasion de faire une collaboration avec une compagnie de danse contemporaine. Et moi, à l'époque, évidemment, je le fais plus maintenant parce que j'ai pas le temps, mais mon attitude, c'est toujours que si je fais un ballet, il faut que je connaisse bien le langage, comment ça marche, et j'ai fait même des petits cours d'expression corporelle. J'ai vraiment pensé qu'il fallait tout savoir et tout expérimenter pour être un chef d'orchestre.
Savoir, c'est le moyen de trouver la liberté.
C'est ça, exactement. C'est la musique qui compte, la musique qui c'est mon impulse, la motivation. Et c'est juste pour ça que, à l'époque et pendant toutes ces années, j'ai pas choisi un style ou un répertoire, parce que c'est la musique depuis Josquin des Prés jusqu'à Pierre Boulez qui m'intéressait déjà et m'intéresse maintenant. Et j'ai pas voulu du tout quitter, abandonner un style, une période en faveur
Cinq
de l'autre.
Siècles.
Exactement, exactement. Et des gens pensaient que j'étais fou, que je m'en souviens très bien des gens qui disaient non, mais on peut pas tout faire, il faut choisir, il faut se faire un profil. Pour moi, c'est évident. Mmh. Et je veux pas du tout, je peux pas choisir entre Monteverdi et Stravinsky. Je me résiste à abandonner un des deux. Voilà. Si je peux le faire, évidemment, c'est une question de persévérance, de travail, de discipline et de passion pour s'y connaître. Il faut évidemment connaître tous ces styles, au fond, historiquement, la pratique musicale, instrumentale, d'interprétation, mais c'est une question de discipline et de passionnement.
Hermann Scherchen, par exemple.
Mm-hmm.
Voilà quelqu'un qui épousait aussi plein de styles et qui faisait à sa manière la création brûlante et contemporaine, mm-hmm. et en même temps sa propre vision des brandebourgeois.
Mm-hmm. D'un coup, je me souvenais pas, mais je pense que c'était le premier livre de direction d'orchestre que j'ai lu, son traité de direction, Hermann Scherchen. Avant, j'avais lu quelque chose pour introduction à la direction chorale, mais le livre de Hermann Scherchen était très important à l'époque pour moi.
Un extrait du Magnificat SV-281 de Monteverdi par le Balthazar Neumann Ensemble, dirigé par Pablo Heras Casado, pour refermer ce deuxième épisode des grands entretiens avec le chef espagnol. Réalisation Christine Amado, prise de son Jérémy Tuil, mixage Pierrick Charles, attaché de production Flora Sternadel. Suite de ce portrait demain à la même heure. Les grands entretiens sont disponibles en podcast sur francemusique.fr.
À réécouter sur francemusique.fr.